Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie.
L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture.
C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles.
L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement.
Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie.
Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute!
Bonjour Adrien, bienvenue sur le podcast.
Eh bien bonjour, je vais vous parler de la ferme, ferme de Montchevillon. On est une ferme familiale située dans le département de l'Aisne, sud des Hauts-de-France, dans une région plutôt de grande culture en fait, où l'élevage n'est plus très présent et n'est pas présent du tout sous forme bocagère. Donc c'est une petite ferme qui est située dans une vallée, la vallée de l'Ourcq, et qui présente des contextes très hétérogènes entre de la zone humide, des pentes, des zones sableuses, caillouteuses, des possibilités de culture mais sur des petites surfaces. Du coup, pendant une trentaine d'années, mes parents ont fait du lait et depuis 10 ans, on a un troupeau de vaches allaitantes Limousine. Donc entièrement en agriculture biologique depuis plus de 45 ans exactement. Et une valorisation des jeunes, des bœufs et génisses valorisés dans le circuit agriculture biologique. L'hétérogénéité des terrains, la complexité des contextes sur la ferme, même si c'est une petite surface, fait qu'on essaie de jouer avec toute cette complexité pour valoriser au mieux. Donc en fait, c'est l'ancien système de pâturage tournant qu'il y avait pour le lait qu'on a conservé pour les allaitants, avec des petites parcelles qui sont soit séparées par de la clôture électrique, soit du barbelé. Et pour 25 hectares pâturés, il y a une trentaine de parcelles en pâturage tournant. Et on a essayé au fil du temps, donc ça a mis 30-40 ans à se faire, c'est de laisser les arbres, les ligneux pousser spontanément, parce qu'en fait, il n'y en avait pas du tout quand mes parents se sont installés. Ils ont poussé spontanément, on les a aidés sous forme de plantation, de bouturage en zone humide. Ça s'est fait vraiment sur un grand laps de temps, et toute cette diversité de ligneux aujourd'hui présents, ça nous sert d'un point de vue agronomique pour ramener, si on a des terres qui sont pour certaines très pauvres en matière organique, soumises au vent, au soleil. Donc il y a vraiment un aspect protecteur de l'arbre rapporté de la matière organique. Et puis, le point peut-être qui va nous intéresser plus dans la discussion aujourd'hui, l'aspect fourrager, qu'on va détailler un peu sous forme technique par la suite. En termes de diversité d'essences, parce que donc on est sur des terrains essentiellement calcaires, avec donc un gradient d'humidité presque complet, quoi, de la tourbière jusqu'aux zones très sèches, sableuses, sur une différence de niveau d'une centaine de mètres. Donc en fait, ça favorise une grande diversité végétale, aussi bien de la flore des prairies permanentes, parce qu'on a une majeure partie en prairie permanente. J'ai pas précisé, c'est qu'on a un petit peu de luzerne et quelques cultures pour faire qui ont une vocation fourragère, donc métail fourrager ou céréales pour la nourriture des bêtes. Et donc, toute cette complexité de contexte, de complexité d'affique fait que les arbres qui ont poussé spontanément ou que l'on a planté, qu'on a renforcé, ça donne un panel d'essences qui est assez intéressant, notamment influencé par la présence du calcaire assez régulièrement. Donc on a à peu près 45 essences d'arbres et d'arbustes présents dans les haies, dans les fourrés, dans les lisières de bosquets, de petits bois. Et c'est sur ces essences, ces 45 essences, que l'on travaille tout le long de la vie, du séjour d'un animal sur la ferme, entre les prairies qui sont plutôt dédiées aux génisses ou à l'élevage des jeunes et puis celles où on est plus en mode engraissement, enfin, ou élevage des mères avec les jeunes. Donc voilà, au fur et à mesure, elles ont une grande diversité de flore. Moi, je peux citer aussi, on a 350 espèces de plantes herbacées. C'est pas du tout de l'introduction, c'est de la présence spontanément dans les différentes parcelles de la ferme. Voilà, plus les essences ligneuses dont on va parler par la suite.
Et pour comprendre déjà dans ton système fourrager, l'arbre fourrager, il intervient à quel moment? Quel rôle il occupe un petit peu dans ton système de production sur l'année, quoi?
Oui, alors, on a fait des observations empiriques, comme tout éleveur peut faire. Hein, ce qu'on constate régulièrement, que les animaux consomment les lisières de bois, consomment les sous-bois. On a un petit peu de sous-bois pâturé, enfin, où on a mis de l'accès aux animaux. Et puis, elle consomme dans les haies. D'ailleurs, l'entretien de prairies pâturées en pâturage tournant, il y a une consommation intéressante. Et donc ça, c'est un constat que j'ai fait il y a plus d'une quinzaine d'années et que j'ai essayé de développer au fil du temps pour que ça puisse répondre en fait à... Enfin, j'y pensais pas forcément il y a 20 ans, mais aujourd'hui, au fur et à mesure des années, j'en suis... plus en plus rendu compte de son intérêt, c'est d'avoir représenter un complément fourrager important en période de manque d'herbe, donc essentiellement la période fin d'été, début d'automne, où malgré qu'on soit dans le nord de la France, on n'est pas dans une zone très arrosée, on a moins de 700 mm d'eau à l'année. Alors cette année, c'était une année verte, mais en année, depuis une dizaine d'années, très régulièrement, on est face, comme tous les éleveurs, hein, face à une nécessité de fourrage complémentaire. Et en fait, au lieu d'acheter du foin, ou en tout cas de taper dans les réserves de foin qui servent pour l'hiver, hein, parce que donc, les bêtes sont en stabulation 5 mois pendant l'hiver, au lieu de taper dans ce stock-là, on a développé, enfin on a au début expérimenté, puis aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ça roule vraiment, la complémentation fourragère. Et puis l'autre aspect, et ça qui est plus difficilement visible, c'est pas très palpable comme ça, mais il y a l'intérêt nutritionnel, et puis tous les autres aspects qu'on connaît et que je vais pas détailler, sur l'intérêt de la diversité de l'alimentation des animaux au cours de leur vie, quoi. Donc oui, l'hétérogénéité de contexte, de sol, d'humidité du sol fait qu'on a essayé d'adapter le type de groupements ligneux qui sont présents. Parce qu'évidemment, il y a des haies bocagères, donc ça c'est des haies qui sont développées ou qu'on a plantées en limite de parcelles de pâturage tournant, de parcs. Mais il y a aussi, donc ça c'est la haie qui parle à tout le monde, et les haies on les mène de différentes façons suivant le contexte. Par exemple, sur un sol très sec, sableux, avec peu de ressources en eau, on va pas chercher à ce que la haie soit trop grande, puisque de toute façon il y aura pas assez d'eau, il y aura pas assez de, les arbres seront pas capables d'aller trop haut. Donc là on va plutôt faire de la haie basse ou des arbres taillés assez bas. Alors, il faut toujours garder un petit peu pour l'ombrage des animaux, ça c'est important, d'autant plus qu'on a la majorité de la ferme est exposée sud-ouest, donc c'est important d'avoir des zones d'ombrage évidemment. Et du coup, suivant les contextes, on avait des zones en déprise qui étaient, on avait pu valoriser par manque de temps. C'était pas une priorité, donc on a réouvert en pâturage et sur ces zones, par exemple, c'est un exemple, on pourrait voir ça comme de la broussaille inutile entre guillemets, parce qu'en fait finalement il n'y a pas beaucoup de ressources herbacées, et j'ai puisé dans ce potentiel de broussaille, de petits bosquets, pour en faire des petites zones fourragères qui peuvent faire 10 ares, 20 ares ou voire moins, hein, vraiment sous forme de bosquets. Donc ça, ça va être des essences chez nous adaptées au calcaire, mais qui sont quand même assez bien réparties en France, comme du fusain, du troène, cornouiller sanguin, du nerprin purgatif. Donc c'est que des essences d'arbustes, parce que là on est sur des terres sèches, pauvres en nutriments, enfin avec beaucoup d'érosion qui est spontanée. Mais ces essences d'arbustes sont vraiment adaptées, de toute façon elles sont venues spontanément. J'ai renforcé quand il y avait nécessité, vraiment sur cet exemple-là, où on peut rajouter les viornes aussi, viorne lantane, viorne aubier. Voilà, on a un petit paquet de 5-6 espèces, essences d'arbrisseaux, qu'on attend qu'elles soient vraiment... alors soit elles étaient déjà, les sujets étaient déjà suffisamment solides, résistants pour être mis directement en pâturage, soit si on les a plantées, elles sont mises en défend provisoirement, le temps qu'elles se renforcent bien. Et donc là, on fait c'est les animaux qui vont venir pâturer spontanément dessus, suivant le pâturage tournant, sachant que plus on est dans les zones sèches, moins le retour est régulier, parce que bah, forcément, en pleine période estivale, si tout est sec, on va éviter de remettre les animaux dessus, on va attendre plutôt la fin de saison. C'est une ressource fourragère intéressante au printemps aussi. Voilà, donc ça c'est un exemple, par exemple c'est broussailles, bosquets. On a complètement à l'opposé, en zone humide, donc c'est des parcelles qui sont en fond de vallée, au bord de ruisseaux. J'ai joué sur la capacité et la formidable possibilité de faire du bouturage avec essentiellement du sol blanc, mais aussi sol marceau, sol cendré, peuplier un petit peu moins, plus récemment on va dire, et pour développer des haies de sol tétard ou de trogne qui étaient complètement inexistantes chez nous, hein, ça n'était pas du tout voilà, c'était pas vu depuis très longtemps. Et donc c'est des sujets qui ont été bouturés il y a une vingtaine d'années et depuis 10 ans qui sont très productifs, extrêmement productifs. Donc on fait les animaux toujours pareil, consomment tout ce qui est latéral à hauteur de dents de vache. Donc pour une vache adulte, il faut compter 2 mètres, 2 mètres 10 de hauteur en latéral, enfin la verticale, où elles vont consommer tout ce qui dépasse et tout ce qui est au-dessus. C'est une ressource fourragère qui est très importante, notamment sur des essences vraiment appétantes comme j'ai parlé du sol blanc. Et donc là, on vient donner un petit coup de pouce. S'il y a nécessité en période de manque d'herbe, c'est vraiment une ressource fourragère qui est importante. C'est assez facile à exploiter, entre guillemets, à valoriser, à récolter. Donc on fait sous forme de taille. Donc par exemple, un exemple très concret, on connaît la façon de mener un sol tétard, enfin une trogne de sol, sous forme d'étêtage et de taille régulière. Et donc au lieu de le faire en hiver, c'est depuis une quinzaine d'années, on fait cette taille-là mi-août jusque octobre. Après, normalement, on a moins de nécessité, parce qu'il y a toujours une repousse d'herbe, en tous les cas, à l'automne. Et donc on met à disposition des troupeaux, c'est génisse ou les vaches, ce fourrage. Donc ça, c'est un exemple avec le saule. On l'a fait avec le frêne, malheureusement, le frêne a fortement régressé du fait de la calarose. Mais voilà, on peut le faire avec quantité d'essence. La trogne ou le tétard, évidemment, sur des arbres qui font du tronc. Donc ça, on le fait pas sur tout ce qui est arbuste. Et puis, pour reprendre un autre exemple... tout ce qui est haies, alors il y a les haies champêtres qui ont poussé spontanément sur les linéaires de clôture. Dans ces haies-là, on a beaucoup d'épineux. Donc c'est aubépine, prunelier, épine noire, églantier. Ce que j'ai fait, c'est une sélection, en fait, pour essayer de favoriser... Je dis j'ai fait et je continue à faire, c'est quand même quelque chose qui se fait sur la durée. Favoriser les essences que je considère vraiment fourragères et plus intéressantes, comme du fusain, on revient, fusain, troène, cornouiller, sanguin, les viornes. Viorne lantane, viorne aubier. Donc c'est pas d'éliminer tous les épineux, mais c'est de redonner un peu de place à nos fameux arbustes fourragés qui sont dedans. Voilà, ça se fait sur du. Pour moi, c'est quelque chose quand je vais faire sur du long terme. C'est une haie, elle vit, elle continue de vivre. Donc on va toujours sélectionner entre guillemets. J'ai pas d'objectif à avoir que de la haie fourragère sur ces linéaires de clôture. Voilà, il y aura une diversité d'essence. Et donc l'autre type de haie fourragère, qui est d'implantation plus récente, parce qu'il m'a fallu le temps de trouver le meilleur moyen les implanter, le meilleur moyen de jouer sur leur mise en défense, puisque une jeune plantation, il faut absolument pas laisser accès aux animaux, surtout pas aux vaches qui vont avoir un impact de piétinement, d'échaussement sur des jeunes plants. Donc alors avec les vaches, justement, à l'opposé, c'est que la facilité, c'est la mise en défense avec la clôture électrique. Donc on a un total de 700 mètres linéaires de haies qui ont été plantées ces trois dernières années, vraiment à vocation fourragère. Donc dedans, ce sont que des arbres et arbustes fourragés, que je considère fourragés et adaptés à notre terrain. Donc il n'y a pas d'introduction d'essence qu'on n'avait pas, parce que je considère qu'avec déjà 50 essences sur la ferme, il y a déjà de quoi faire et de s'adapter à tout type de conditions. Donc il peut y avoir du OG, du futur OG ou tétard haut comme des robiniers, le robinier faux acacia qui se plaît bien dans les sols sableux, qui a une formidable croissance même en conditions en année sèche. On peut citer des essences auxquelles on ne pense pas en essence fourragère, c'est le pommier sauvage, enfin, c'est-à-dire du pommier franc non greffé. On ne va pas du tout attendre de faire du fruit, mais c'est un arbre qui supporte très bien un pâturage assez régulier, donc on peut le mener en une sorte de trogne basse à 1m20, 1m50, sur lesquelles les vaches vont pouvoir régulièrement brouter les jeunes pousses. Après on va avoir des essences beaucoup plus sensibles si on prend le tilleul par exemple, qui aime bien les terrains calcaires et qui peut s'affranchir de la sécheresse un petit peu. Lui par contre on va plutôt attendre qu'il monte, et c'est dans ces fourragères je vais garder des sujets plus hauts comme voilà, les tilleuls, les robiniers, et je viendrai couper dessus ce que j'ai parlé tout à l'heure pour l'exemple du sol, pour faire de l'affouragement complémentaire. Et donc voilà, sur ces fourragères entre deux on va avoir entre ces OG qui sont à peu près entre 8 et 10 mètres les uns des autres, on a tout le panel dont j'ai parlé tout à l'heure d'arbrisseaux arbustes fourragés. Et là, sur ceux-là, ça va être vraiment ce qu'on peut appeler la table fourragère. Donc taillé une première fois assez bas, vers 90 cm, 1 mètre. Et au bout de 4-5 ans, suivant la rapidité de croissance, ça sera une mise à disposition en jouant avec la distance du fil de la clôture électrique. Une mise à disposition pour les vaches, enfin pour le troupeau, pour une consommation au fur de l'année. Une consommation que je veux plutôt tardive, c'est-à-dire il n'y a pas trop d'intérêt à leur mettre au printemps, parce que de toute façon elles ont de l'herbe et elles peuvent déjà consommer dans les clôtures, dans les lisières de bois. Et puis, donc ça sera plutôt, ouais, enfin, pareil, je mettrai une disposition à partir de juillet, août, septembre. Alors, il y a de nombreux contextes hein, qui peuvent parler à tout éleveur. Après, je pense qu'il peut être intéressant, c'est de parler des lisières forestières. Nous, la ferme, elle est bordée de deux petits massifs, hein, vraiment des petits massifs d'une centaine d'hectares chacun. Et on a donc la zone de contact entre les pâtures et ces boisements, ça représente 3 km quand on fait tout le tour des lisières, ça va vite. Hein. Et dans tous les cas, il y a toujours une nécessité d'entretien parce que ce sont des arbres, là c'est une lisière d'arbres de 20-25 mètres. On a un élagage qui est un peu obligatoire dans le sens où si on fait du foin, il faut pouvoir passer le long. Pour améliorer un peu, ramener un peu de lumière au pied, on fait de l'élagage. Alors ça peut se faire au lamier ou à la tronçonneuse, à la perche et la gueuse. Et en fait, l'idée pour tout éleveur, enfin, beaucoup de monde est concerné par ce cas-là, et c'est ce qu'on a chez nous, c'est qu'au lieu de faire cet élagage ou cette reprise sur des troncs en latéral, au lieu de la faire en période hivernale, en plus où les terres peuvent être peu portantes, on le fait quand le troupeau est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la rame au sol, la façon de faire. Donc je passe là, typiquement, en ce moment, début septembre, enfin, de août à début octobre, mi-octobre, on fait tomber les branches, voilà, vraiment comme un élagage assez classique, avec la présence du troupeau juste derrière. Et de cette manière, il y a une valorisation complète de la feuille, des jeunes branches, sur ces lisières-là.
Et puisqu'on parle de taille, je voulais qu'on revienne un peu à la table fourragère. Est-ce que une fois que tu as mis à disposition, enfin admettons qu'on arrive à un moment où il y a eu assez de croissance, que les plants sont bien établis, Est-ce que ça nécessite quand même une taille derrière les animaux pour garder une certaine forme et encourager la repousse, ou est-ce que c'est quelque chose qui est entretenu à la bonne hauteur à travers le pâturage?
Alors ça, c'est vraiment dépendant de l'essence. Alors je reviens, c'est vrai que c'est celle que je cite le plus, hein, bah, Troène, Cornouiller sanguin, Léviorne, Fusain, le Nerprin. C'est des essences où normalement on n'a pas du tout besoin de revenir, puisqu'en fait elles ont une croissance qui est quand même beaucoup plus faible qu'un orme ou qu'un robinier. Ça va faire des pousses annuelles 30-50 cm. Donc il faut se dire qu'un passage, enfin trois passages, pardon, trois mises à disposition dans l'année par les animaux, par exemple juillet, on va dire théoriquement, juillet, août, septembre, ça sera consommé intégralement et on va. Il faut imaginer un bonsaï en fait. Enfin, l'image bonsaï, c'est une taille très régulière, même si c'est que tous les mois, mais ça suffit. Donc là, on n'aura pas besoin de revenir. Par contre, dans la table de revenir taillé, hein, à partir du moment où on a fait une première taille manuelle, c'est ça qu'il faut quand même préciser, à la hauteur qu'on souhaite. Donc, première fois, au bout de la première, deuxième année de croissance du sujet, on fait une petite coupe à 1 mètre, par exemple. Par contre, si on est dans l'étape fourragère, on peut mettre beaucoup d'autres essences. Par exemple les ormes, donc soit l'orme champêtre qui est sujet à la graphiose, soit les ormes qui ont été sélectionnés pour leur espérons résistance, donc l'orme de Lutèce et compagnie, l'orme résistant. Lui, il a une croissance très, pour cet exemple, il a une croissance très forte, il peut faire des pousses annuelles de 2 mètres. Donc en fait, si les vaches vont toujours, ou les vaches, les moutons, les chèvres, vont toujours avoir, vont pouvoir consommer quelque chose dessus, de la feuille, de la jeune branche. Par contre, le risque, c'est si on passe pas suffisamment régulièrement. En tout cas, il y a un moment dans l'année où la croissance se fait tellement vite qu'elles vont pas arriver à descendre sur, à revenir sur le point de table, le niveau de table en fait. Et c'est là où il faudrait, alors peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les deux ans, une intervention manuelle pour revenir au niveau où on voulait. C'est le même exemple si on fait une trogne pâturée, qui peut être avec de nombreuses essences, ça peut être par exemple sur du frêne. Il faut quand même qu'il y ait un point, un retour à un point central de rejet. Et plus on va faire des. On va plus, alors les animaux, s'ils laissent des brins qui font 20-30 cm, parce qu'elles ont consommé toute l'extrémité, mais une multitude de brins de 30 cm, en fait, l'année d'après, l'arbre va disperser son énergie dans tous ces brins-là, et on n'aura plus la forte pousse qui provient du point de trogne originel. Donc c'est là, sur ces essences à forte croissance, en fait, où il faut une intervention mécanique complémentaire. D'où le fait que, moi, ce que je vois sur la table fourragère, c'est l'idéal, c'est de viser quand même les arbustes, comme je disais, les arbustes et arbrisseaux, où il n'y aura pas besoin de faire d'intervention manuelle. Et qu'à la rigueur, les arbres très poussants, donc ou le robinier par exemple, on va plutôt les laisser monter en tétard haut. Et tant qu'à venir faire une coupe, tant qu'à avoir une intervention manuelle, autant faire tomber du volume, de la biomasse. Donc autant faire tomber plutôt tous les 2-3 ans ce que les vaches n'ont pas, ou les animaux n'ont pas accès, donc au-dessus des 2 mètres pour des vaches ou 1,50 m pour des moutons par exemple. Autant leur faire tomber beaucoup de branches avec beaucoup de feuilles. Là, elles vont avoir beaucoup à consommer, plutôt qu'à revenir couper tous les ans ou tous les deux ans des jeunes pousses qui finalement contraignent un peu la croissance. Enfin, c'est pas les jeunes, c'est pas la coupe, c'est les jeunes pousses qui contraignent la croissance de l'arbre. Ça, c'est mon avis. Enfin, c'est l'expérience que j'ai pu voir sur tout ce qu'on a testé depuis une quinzaine d'années. Et puis après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a des essences quand même qui supportent assez mal la table fourragère, le pâturage ou broutage régulier. Des essences à bois tendre, si on prend les peupliers au sens large, donc que ce soit des peupliers cultivars ou du peuplier noir, le sol blanc, donc c'est la même famille, hein, c'est quand même notamment le sol blanc est très fragile. C'est un bois très cassant et le pâturage des animaux, notamment la vache, elle va casser les pousses, et on a rapidement une dégradation de ces sujets-là. Donc il y a des essences comme ça, pour moi, qui ne sont pas adaptées et au pâturage. Par contre, elles sont adaptées à pousser, à produire une biomasse qu'on va faire tomber en rame au sol ou voilà, en coupe manuelle ou au lamier, peu importe, ou au sécateur, enfin, il y a plein de façons de récolter et de valoriser, évidemment.
Et au niveau de la récolte des trognes plus hautes, comment est-ce que ça s'organise? Est-ce que c'est tu fais un linéaire tous les 2-3 ans? Est-ce que tu fonctionnes plutôt par essence en te disant bah, les saules qui sont très poussants, je vais revenir les trogner plus fréquemment?
Ouais, alors c'est, ça c'est quelque chose, de, c'est vraiment de l'observation. On a testé et puis on a fait des erreurs et on a trouvé ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, globalement, j'ai l'itinéraire technique qui est adapté. On est sur un cycle, je dis bien une moyenne de 3 ans. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le temps de retour idéal pour faire de l'ététage, enfin reprendre les têtes des têtards ou si c'est de l'émondage, c'est 3 ans. Pour une grande majorité des essences. Alors, du saule en 3 ans, il faut s'imaginer qu'on a des pousses qui sont immenses. Sur du frêne, ça va être moins. Sur l'érable sycomore, ça va être formidable. Et par contre, à l'opposé, l'érable champêtre va avoir une croissance inférieure. Et moi, ce que je vois, c'est que... Alors, j'ai un petit troupeau. À mon échelle, je travaille à la perche et la gueuse, mais sur une plus grosse... Sur des plus gros troupeaux, des plus gros linéaires, sur des plus gros sujets, on peut travailler avec soit au lamier, mais il y a une nécessité de revenir à la tronçonneuse, faire des coupes plus proches du tronc, par exemple. On peut travailler avec des têtes abatteuses, pinces, sécateurs. Il faut quand même se dire, tant qu'à couper quelque chose, que ce soit à la main ou de manière mécanisée forte, autant que ça vaille le coup. Donc c'est pour ça que les 3 ans c'est un minimum. On pourrait venir couper tous les 2 ans sur du sol, mais tant qu'à couper il faut qu'il y ait des diamètres assez gros. De toute façon, la production de feuillage et de jeunes branches, de jeunes rameaux que les animaux vont consommer, cette quantité elle est très croissante pendant 3, 4, 5 ans. Bon, après ça dépend vraiment des essences, et surtout ce fourrage, le feuillage il est très appétant vraiment sur les en moyenne. Si on prend l'exemple d'un charme aussi, ça va être sur 5-6 ans. Après si on le laisse une 10-15 ans sans le recouper, on va avoir un feuillage moins appétant et puis la productivité de feuilles diminue évidemment en proportion au fil du temps. Donc voilà, après c'est vraiment aussi moi j'ai adapté ce temps de retour à la ferme par rapport à la quantité de fourrage disponible et aussi de la valorisation des branches outre l'aspect fourrager, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les vaches ont consommé le feuillage, et je le redis bien, il n'y a pas que le feuillage, les jeunes rameaux, hein, elles mangent vraiment toutes les jeunes pousses de l'année, ça va, il y a ce qu'on pourrait penser qu'il n'est pas que de la feuille, mais vraiment il y a le bois vert est consommé. Et tout le reste, comme on le valorise dans une déchiqueteuse pour en faire un genre de copeaux incorporé à la litière en stabulation, c'est voilà, 3 ans sur du saule par exemple, ou de l'érable sycomore, ou du robinier, c'est un diamètre qui est parfait pour passer dans la machine. Si on avait une vocation, enfin l'éleveur qui souhaiterait valoriser plus en plaquettes bois énergie, après la valorisation du feuillage, il va attendre évidemment plus pour avoir du plus gros diamètre, plus de bois, voilà, pour optimiser les doubles, triples valorisations.
Mais toi, dans ta gestion de l'espace, pour bien comprendre, dans tes parcelles, tu te dis chaque année, je prélève quelques sujets sur un linéaire pour qu'il y ait toujours un petit peu d'affouragement dans toutes les parcelles, ou tu te dis plutôt, il y a une parcelle, c'est une parcelle où on va fourrager principalement parce qu'on est en train de faire la taille sur ce linéaire-là et tu fonctionnes par du coup une zone géographique.
C'est plutôt par tronçon, voilà, c'est ça. Okay. L'importance des tronçons, c'est dépendant de l'importance du troupeau, mais aussi de l'année. Si des années où vraiment on a un fort déficit pluvieux et que du coup il y a un manque de fourrage herbacé important, on va prélever plus. Et l'avantage de l'arbre fourragé, c'est qu'une année où on a peu de besoins, on va prélever un peu, mais c'est pas perdu, c'est pas comme de l'herbe dans une prairie. Et l'herbe qu'on n'a pas récoltée cette année ou la luzerne qu'on n'a pas faite, ce sera pas pour c'est perdu. Et l'année prochaine, on n'en bénéficiera pas, enfin, en termes de biomasse. Que bah, l'arbre, l'année d'après, il y aura encore plus et il y aura plus de bois. Donc voilà, on peut se donner une théorie et se dire ah ouais, c'est sous forme de tronçon, avec si c'est du saule, ça va être 3 ans, si c'est de l'érable champêtre, bah, ça va être peut-être 4-5 ans. De temps de retour. Mais c'est sûr que c'est pas 2023, il faudra que je fasse ci. Si c'est pas fait cette année, ça sera fait l'année prochaine. Et puis ainsi, en fait, il faut raisonner pâturage tournant, mais aussi valorisation tournante de l'arbre. Le pâturage tournant se fait aussi en latéral, donc comme je l'ai dit, sur tout ce que les vaches vont consommer dans les fourragères, dans les lisières, dans les bords de clôture, mais l'affouragement, c'est sous forme de rotation aussi.
Et est-ce que tu arrives à faire coïncider ton pâturage tournant avec les besoins de prélèvement sur la matière ligneuse? C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, tu parlais sur une table fourragère de deux ou trois pâturages entre juillet et septembre, enfin vraiment la période sèche, mais c'est pas forcément un moment où tu pourrais faire deux ou trois tours par rapport à l'herbe, quoi. Donc comment tu arrives à jongler un petit peu les deux éléments?
Oui, alors sachant que les fourragères, on les a mis volontairement dans des parcelles qui étaient peu productives, parce qu'il y a aussi l'idée de ramener de la matière organique, donc des parcelles sur sable, des prairies permanentes sur sable. Et donc en effet, oui, c'est sûr que bon, c'est une théorie de se dire trois fois. Là, elles sont encore jeunes, mais ce que je pense, c'est qu'il pourrait y avoir des années où il y a très peu de croissance, et donc parce que très peu de pluviométrie. Mais de ce fait-là, je ferai passer les bêtes assez peu dans cette parcelle-là, puisqu'il y aura aussi peu d'herbe. Par contre, l'année, avec la pluie au bon au moment dans l'été, on a une assez vite réactivité des arbres robustes en termes de croissance, en jeunes pousses, comme l'herbe en fait. Donc ça coïncidera, pour l'instant ça coïncide, on le voit bien, ce pâturage tournant aussi. Et puis de toute façon, ouais, je le répète, c'est pas parce qu'on manque une année. Alors sur la fourragère, il faut éviter de manquer une année, puisqu'on va avoir de la croissance de bois qui sera moins à pas consommer d'après. Mais si on part sur un objectif de trois fois dans l'année, et si on fait que deux fois, c'est déjà suffisant pour la viabilité de la haie.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, étape par étape, comment ça se passe, cet affouragement des bêtes avec du ligneux?
Alors, première étape, qui ne concerne pas directement le ligneux, c'est que donc on parle de rame au sol, hein, quand on fait l'affouragement. Je vais garder ce terme-là, comme ça on suivra le fil. On ne commence pas du tout de coupe de rame au sol en début d'arrivée des vaches dans la parcelle. Si je prends une période, on est en moyenne, on va dire, 3 jours de pâturage par parcelle. On va dire fin août. Ce que je fais, c'est que j'observe la consommation de l'herbe. Et de toute façon, ça serait un non-sens de faire tomber des branches en début d'arrivée des vaches dans cette parcelle, puisque premièrement, on aurait un gaspillage de l'herbe présente, et elles n'auraient pas forcément une nécessité de consommer tout de suite du ligneux, alors qu'elles ont un super trèfle à disposition, imaginons, à l'arrivée dans la parcelle. Donc on attend toujours les deux tiers, à peu près les deux tiers de la consommation de la parcelle. Parce qu'à l'opposé, j'attends pas qu'il n'y ait plus d'herbe dans la prairie. C'est ce qui peut paraître le plus simple, et c'est un peu la mesure d'urgence, la mesure pompier. On se dit, oh, il n'y a plus rien à manger, il est temps de couper des branches. Si on arrive à anticiper, et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire au mieux, avec l'expérience, c'est que voilà, on regarde, ah, elles ont bien consommé de l'herbe, mais il en reste. Et l'idée, c'est que au moment où je vais réaliser la coupe d'affouragement, faire tomber des branches au sol, de la lisière ou des arbres têtards par exemple, je vais faire en sorte qu'elles vont consommer sur les deux jours qui suivent et de l'herbe, parce qu'il en restera dans la prairie, elles n'auront pas encore consommé tout le stock sur pied, et de l'herbe et de la branche et de la feuille présente. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important à observer au début et à anticiper. Alors, c'est facile à dire, il y a des fois on n'est pas disponible ou alors il pleut. Voilà, justement, il y a aussi les fenêtres météo. Bon, normalement, en été, on est plutôt le contraire, on préférerait qu'il pleuve. Et je vais éviter de couper, alors que je sais que le lendemain, ils annoncent de la pluie, puisque, en fait, toutes les essences hein, de ligneux qu'on va couper, c'est comme de l'herbe. Si ça prend trop d'humidité à partir de la première journée de séchage, c'est complètement, enfin c'est délaissé par les bêtes, ça perd en appétence très rapidement, c'est assez surprenant, enfin ouais, mais c'est assez logique en même temps. Donc ça, je regarde ça aussi. Donc ça fait quand même plusieurs critères d'observation préalable, de réflexion préalable, et l'itinéraire technique, la façon de procéder. Donc là, sachant que j'ai un petit troupeau, ou si c'est les génisses, c'est encore plus petit. J'interviens avec une perche et la gueuse, donc c'est une tronçonneuse sur perche qui permet d'aller travailler 4 mètres, 5 mètres au plus haut, mais entre 2 et 4 mètres. Ça permet d'éviter de prendre des risques de faire à la traque, enfin, soit dans un godet, dans un Manitou, soit à la tronçonneuse à bout de bras ou sur une échelle. Et donc la perche et la gueuse, voilà, je fais tomber les branches. Alors faire tomber les branches, c'est facile à dire comme ça, mais je respecte. Enfin, l'idée c'est que je repasse pas derrière en fait. C'est que lorsque je fais une coupe, ça soit pas mal fait ou alors que je me sois dit, oh, bah, j'ai pas coupé au bon endroit, donc il va falloir que cet automne je revienne couper proprement. Non, j'essaie de faire autant que possible, même si j'ai pas trop le temps à ce moment-là, de couper bien pour plus avoir à y revenir. Enfin voilà, les principes de la taille. Et donc je fais tomber les branches et j'essaie de pas en faire tomber trop non plus. Parce que je préfère, par exemple sur une rotation, imaginons que les vaches passent dans une parcelle, dans une dite parcelle deux fois en fin d'été. Je préfère couper deux fois à un mois d'intervalle plutôt que d'avoir coupé tout en une fois au mois d'août. Et puis qu'elles en aient gaspillé une partie, peut-être, parce que, bah oui, on aura eu une grosse rosée ou de la pluie deux jours après. Et puis finalement, il n'y a plus rien pour le mois de septembre. Donc, pour tout éleveur qui ferait de la rame au sol, ce qu'il y a besoin de faire au début, c'est un peu du tâtonnement, c'est de regarder ce que va avoir besoin le troupeau, ce qu'elles vont consommer. Parce que tant qu'à couper, autant que ça ne soit pas gaspillé et autant avoir fait ça à juste mesure. Donc voilà, alors avec la clôture électrique pour les vaches, c'est très facile parce que tout ce qui est en esclos, par exemple, des haies ou des arbres têtards qui seront en bordure, il suffit de poser le fil, voir comme on a le système un peu avec tendeur sur clôture. Au pire, les branches tombent dessus, on les décale un peu. Lors de la coupe, je fais en sorte que les branches soient alignées, assez bien réparties. Alors après, suivant les essences, on va dire que trois quarts de ce qu'on va couper, ça va tomber au sol et ça va être assez aéré. Même si c'est des branches, ce sont des branches latérales, c'est assez touffu en fait, que ce soit des érables, du frêne. Donc là, les vaches vont venir, le troupeau va venir consommer dessus et j'essaie que tout soit pas au même endroit, que ça soit un peu étalé. Donc si on fait sur un linéaire, c'est facile, il suffit de faire au fur et à mesure. Si jamais on a quelque chose quand même qui est très dense, je préfère reprendre les branches et les disperser un petit peu, pas sur toute la parcelle, mais disperser dans un périmètre où les vaches ne vont pas trop piétiner, pas trop souiller par les bouses et l'urine. Ces rameaux de branches, ou ces houppiers, ce qu'on veut. Et pour le cas des saules et des peupliers, enfin notamment le saule blanc qui fait des grands rameaux effilés qui sont formidables à couper, à manipuler, qui prennent pas beaucoup de place, l'inconvénient c'est que surtout si on a des branches qui ont moins de 3-4 ans, enfin, moins de 5 ans on va dire, les grands rameaux, c'est que ça se plaque au sol et encore une fois c'est assez logique, mais les animaux, que ce soit les vaches ou les moutons ou les chèvres, vont consommer ce qui est au-dessus, mais tout ce qui est au contact du sol vont pas le consommer. Et en plus, il y a un risque de souillure important parce que on connaît les déjections vont arriver en même temps que la consommation et tout ça, ça va souiller. Donc, pour ce qui est saule, et comme on en a quand même pas mal en taille d'affouragement, je fais des fagots qui font, ça fait 80 cm par 80 cm sur la longueur, sur 5 mètres de long, et je les pose dans une remorque. Enfin, je fais des fagots des paquets que je transporte. À la fourche hydraulique et au grappin hydraulique, et puis on les met dans une remorque distributrice, enfin une remorque fourragère adaptée aux arbres. On a un petit peu, enfin c'est du bricolage, mais qui est fonctionnel. Ce qui fait que là, les bêtes vont pouvoir consommer tout ce dont elles ont besoin. Au lieu d'avoir 50% de gaspillage, il va nous peut-être rester 10% qu'elles n'auront pas consommé dans le gros paquet. C'est une façon d'optimiser, mais ça, je répète, c'est vraiment pour le sol blanc, pour des essences qui vont faire des grands rameaux fins et peu branchus.
Et pour les rameaux au sol, par contre, une fois qu'elles l'ont consommé, tu vas pareil venir avec ton grappin et aller stocker cette matière ailleurs en attendant de la broyer.
Oui. Alors, il n'y a pas d'urgence à le faire, hein, généralement, si on a fait tomber des branches en août-septembre. J'ai pas d'urgence à ramasser derrière, je le fais dans l'automne. L'idée, c'est de ramasser ça et de regrouper. pour en faire un andin disponible pour... Donc après, on passe dans un broyeur, enfin une déchiqueteuse broyeur derrière tracteur. Mais ça serait valorisé par... si on faisait venir une entreprise ou pour ceux qui sont concernés par une CUMA avec du matériel, voilà, l'intérêt, c'est toujours de regrouper tout ce bois, donc tous ces ligneux dont les feuilles ont été consommées, de les regrouper et de les mettre à un endroit accessible. Et donc nous, on fait ça, on essaie de centraliser, et puis dans l'hiver, quand on a besoin, on vient broyer le volume nécessaire de copeaux, de broyat pour mettre en litière, en stabulation.
Et au niveau des résultats pour la litière, t'en es satisfait ?
Oui, alors là aussi, on a fait, évidemment, par tâtonnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à tester ça. Hein. Là, maintenant, je pense que c'est à l'échelle nationale, européenne, il y a eu plein de retours d'expérience, donc c'est vrai que... Mais je pense qu'il y a plein d'écoles différentes, et il faut vraiment que ce soit les aspects pratiques, les besoins de l'éleveur qui... Il n'y a pas de recette miracle. Mais pour prendre l'exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite couche en fond de stabulation, enfin quand le fumier a été curé, une couche d'une quinzaine de centimètres de broyat, et puis on garde la paille, on met de la paille, enfin on fait un mélange un peu sous forme de millefeuille, et l'intérêt, c'est qu'on a diminué très fortement la consommation de paille, on a l'impression d'avoir quand même un fumier beaucoup plus sain, on voit aucun purin qui ressort. Ça a une capacité d'absorption qui est... Voilà, j'ai pas besoin de prouver ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on sort ce fumier, donc on l'épand essentiellement dans les terres cultivées et un petit peu et une partie dans les prairies les plus sèches, pauvres en matière organique, sur sable. Et on a un fumier qu'on travaille quasiment pas. On laisse travailler naturellement entre 9 mois de l'année, par exemple. On le laisse travailler comme ça, et en fait c'est assez surprenant de voir le compost qui en résulte, une dégradation vraiment assez rapide. Alors là, comme on a une déchiqueteuse, ça fait pas des gros copeaux en fait, c'est ça qui est... Et en plus on passe pas du gros bois, c'est généralement tout ce qui est diamètre inférieur à 10 cm, tout ce qui est bois tendre comme du saule, des érables, tout ça, ça fait vraiment un copeau qui est un peu plié. Voilà, des copeaux excellents qui se dégradent vite, et qui font vraiment un compost qu'on connaissait pas. Et donc ouais, on les pend dans les terres les plus sableuses, là où on a vraiment un déficit de matière organique. Alors c'est récent, ça fait 3 ans qu'on les pend de cette manière-là. Parce qu'en fait, avant, le bois, toutes les branches, on n'était pas équipé, donc on les compostait. On laissait les branches non broyées en tas, et les tas existent toujours, et ça se composte très lentement. Depuis 3 ans, on fait de cette... sous forme de broyat. Et on voit déjà le bénéfice, ouais, dans les terres les plus sableuses, qui en avaient vraiment, vraiment besoin de matière organique, par rapport à du fumier issu de paille et d'éjection. Là, on voit une nette différence en termes de... Déjà, ça se constate dans le sol, après le travail, l'enfouissement. Puis l'année d'après, là, on constate, ouais, une bonne... Et je ne suis pas le seul, hein. Les autres agriculteurs qui ont épandu cette matière-là. Dans ces contextes-là, ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi.
Et donc, il n'y a pas de souci d'avoir des bouts de bois pas décomposés, enfin, même sans le retourner beaucoup, comme tu disais, sans le travailler, tu as un résultat vraiment satisfaisant.
Non, on fait ça, on remonte simplement le tas, voilà, très logiquement, on le remonte un petit peu, mais on ne passe pas de retourneur d'andin, ce qu'on faisait avant. Ça travaille, ça chauffe beaucoup plus. On voit, ça a l'air de chauffer quand même plus que par la paille, c'est ce qu'on constate, hein. Enfin, que par la paille seule. Et puis, c'est vrai que... Mais voilà, je précise, c'est une déchiquetée plus que vraiment de la grosse plaquette. Et je pense que quelqu'un qui ferait que du chêne, par exemple, en plaquette, évidemment, ça va être différent de nos copeaux de saule, hein. Ça, c'est sûr.
Et toi, donc, tu as fait le choix d'acheter un broyeur ?
Oui, c'est un broyeur que je loue, que je vais racheter, mais c'est un petit broyeur qui demande... Alors, l'inconvénient, c'est qu'il demande beaucoup de manipulation, enfin, de manutention, c'est un petit peu physique. Mais ça permet de passer des tout ce qu'on passe pas en bois de chauffage, donc tout ce qui est au-dessus de 10 cm, voire le sol, on ne fait pas forcément du bois de chauffage dedans, donc on peut passer un peu plus gros. Après, clairement, pour un petit peu plus, et si j'avais. On était un groupe d'éleveurs ou d'agriculteurs qui auraient d'autres velléités de valoriser. Clairement, il faudrait s'équiper avec autre chose. Disons que je suis vraiment à la limite de l'utilisation de ce type de matériel. Enfin, et puis surtout de la main-d'œuvre nécessaire. Donc après, il faudrait clairement passer. Et si j'ai l'opportunité, parce que c'est du matériel qu'il faut avoir à plusieurs, donc ça veut dire plus de chevaux, un matériel plus puissant, un tracteur plus puissant, et puis un broyeur avec un bras. Qui permet de rentrer des fagots et passer plus de volume à la fois. Ça, c'est ce qui peut se faire dans des contextes bocagers sous forme de puma, sous forme de groupements d'agriculteurs. Après, nous, on est dans un secteur qui est très peu pourvu, un petit peu isolé, mais ouais, vraiment, ça, je suis vraiment à la limite, hein. Ça, c'est clair que...
Et après, en termes d'autres valorisations, donc tu as parlé de bois de chauffage.
On se chauffe à deux familles... avec exclusivement le bois des haies, des lisières, des bois pâturés quand il y a des arbres qui tombent, enfin voilà, et compagnie. La litière, ce qui nous a fait économiser fortement de la paille, et comme on disait, d'avoir un compost de meilleure qualité, d'améliorer au niveau agronomique. Et puis après, il y a d'autres potentiels, hein, parce que c'est vrai que dans une haie... ou dans des lisières de bois, si on a des arbres qui ont été bien gérés entre guillemets, ou en tout cas qui ont su bien pousser, parce que bon, l'idéal c'est si on veut faire un peu de bois d'œuvre, c'est faire de la taille et l'agage, mais là on a une haie qui a 43 ans que mon père a planté en arrivant sur la ferme, et donc il y a frêne, érable sycomore qui étaient beaux, des fûts assez corrects. Et qu'on a scié en planche. Donc, c'est aussi c'est pas une vocation économique, mais c'est une utilisation domestique ou même ça peut servir sur la ferme. Et encore, on l'a fait un peu en mode test, mais on pourra en faire plus. Sachant que sur ces arbres, les feuilles avaient été. Enfin, on avait fait de l'affouragement, on les avait fait tomber à la bonne période pour qu'il y ait de l'affouragement, et ça faisait partie de la régénération de l'ail, quoi. Donc oui, il y a une multitude d'utilisations possibles, quoi. Enfin, c'est plus que possible, mais sur...
Mais c'est pas négligeable, parce que quand on voit le prix du bois aujourd'hui, rien que d'avoir des grumes et pouvoir faire de la construction, là, t'as un petit bâtiment qui est en cours de construction, finalement, il y a un vrai intérêt économique aussi.
C'est ça,
Souvent, quand on est éleveur et qu'on pense au fourrage ligneux, une des principales craintes, elle est autour du temps de travail, du temps que ça peut prendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu chiffrer ?
Oui, alors en plus, ça peut faire peur parce que je parle de coupe manuelle, de broyage. Alors, pour l'aspect affouragement, on ne va pas parler du broyage parce que c'est la suite. Bon, après, c'est toujours variable par rapport à la taille du troupeau ou des besoins, mais même un plus gros élevage qui travaillerait sur un troupeau de génisses, c'est pas forcément des besoins énormes. Et finalement, l'intervention manuelle, je parlais à la perche et la gueuse, c'est assez rapide. En gros, c'est le temps de préparer la machine, de se rendre sur place, de couper, de bien remettre les branches. On va dire qu'il y a une demi-heure de travail pour tous les trois jours. Mon année de référence, c'est un peu 2020, parce que 2020, c'était l'année où la sécheresse nous a le plus touchés et où on avait vraiment... quasi plus de ressources herbacées à partir de début août. Et donc là, c'est l'affouragement. J'ai fait tous les trois jours une coupe plus ou moins importante suivant la parcelle où ils étaient, suivant les arbres, les ressources ligneuses. Tous les trois jours jusque fin septembre, début octobre. Donc une demi-heure à chaque fois. Finalement, si on compare entre aller mettre une boule de foin... Parce qu'en fait, j'ai pas utilisé cette année 2020, on n'a pas du tout utilisé de foin. On avait quasi plus d'herbe, mais on n'a pas du tout tapé dans le stock de foin qu'on garde pour l'hiver. Donc on a économisé ce foin-là. Donc le temps, après, il faut compter un petit peu de temps pour ramasser les branches. Mais là encore, il y a un côté expérience qui se fait avec le temps. C'est que si on coupe bien, les branches ne se mettent pas trop mal. travaille avec un chargeur frontal, un Manitou, c'est très facile à reprendre. Après, c'est toujours dépendant de ce qu'on va couper, des volumes. Si on tape dans des très enchevêtrés avec présence d'épineux, là, on va batailler, on va perdre du temps. Enfin, perdre, entre guillemets, ça va, au lieu de passer une demi-heure, ça va être plus difficile. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y aurait comme temps? C'est la gestion du... Mais bon, ça fait partie du pâturage tournant. Enfin, la gestion, j'allais dire, la gestion du troupeau, baisser le fil, remettre le fil. Enfin, c'est... En tout cas, en vache, ça va quand même assez vite. Donc si on met ce temps que je trouve... Donc moi, ça, en 2020, ça m'a fait 6 jours cumulés pendant 3 mois. Quasiment pendant 2 mois et demi. 6 jours cumulés. Parfois, en comptant, parfois on était 2. Mais généralement, globalement, la perche et la gueuse, on peut travailler tout seul, c'est l'avantage. Dedans, je compte le temps de ramasser les branches, les mettre en andin. Donc ces 6 jours, si j'avais dû faire aller acheter du foin, bon, ça aurait été un coût évidemment, plus le temps de transport. Si j'avais dû faire du foin en plus, parce que par exemple, à l'opposé, l'année 2023, où on a eu beaucoup de foin au printemps, on a passé plus de temps à faire du foin. Donc ces 6 jours, peut-être que finalement, ils sont compensés d'un côté ou de l'autre. Puis du coup, en termes de chiffrage, on va dire que c'est une estimation, c'est très difficile à chiffrer, mais si je considère le manque d'herbe dans les prairies, qui est quasi systématique sur la fin d'été, s'il fallait compenser avec du foin, il nous faudrait aller entre 6 et 12 tonnes, suivant les années, de foin ou de fourrage extérieur à apporter aux bêtes. Et ça, c'est l'économie qu'on fait par l'affouragement complémentaire avec les ligneux. Après, en termes de temps, ça dépend ce qu'on fait aussi. C'est vraiment, je pense qu'on va passer beaucoup de temps au début. Comme tout le monde, on tâtonne un peu, on apprend et puis on progresse, on gagne de plus en plus de temps. Après, quelque chose que je peux dire aussi, que je trouve qui n'est pas désagréable non plus, c'est que venir affourager aux animaux, c'est un moment de contact avec le troupeau supplémentaire, d'observation. Même si on est concentré sur la coupe, hein, mais une fois que les branches sont à terre, c'est un temps que je prends, que j'aurais pas forcément pris si j'avais... Enfin, les vaches sont en pâture, tout se passe bien, il n'y a rien de particulier. On a toujours d'autres priorités, autre chose à faire. Et là, c'est un moment supplémentaire avec les animaux. Et donc, pour l'aspect contact, l'aspect gestion du troupeau, observation, observer un individu qui aurait un problème qu'on n'aurait pas détecté, on le voit à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est aussi un petit bénéfice, quoi. Alors, la remorque fourragère, j'essaie de le faire le moins possible parce que ça prend un petit peu de temps de manipulation, manutention. Bon, c'est pas énorme, mais je le fais vraiment que sur le sol blanc. Toutes les autres essences, tout ce qui est lisière des haies assez hautes ou des lisières de bois, on n'a pas de sol du tout dedans. C'est par exemple de l'orme, ce sont des érables, les 3 essences d'érable, il peut y avoir un peu d'aulne, il peut y avoir des robiniers, tout ça c'est de la rame au sol direct, donc j'ai pas besoin de revenir regrouper les branches, je fais tomber ce qu'elles ont besoin, elles consomment et puis on ramasse plus tard. Je dirais que l'utilisation particulière du sol, ça représente un quart, un cinquième du volume total. Juste pour finir avec l'aspect temps passé, parce que je passe une demi-heure à tailler tous les 3 jours, mais il faut se dire que de toute façon, pour tout ligneux qui est présent dans des parcelles, des bords de haies, il y a un moment où on a un entretien à faire, parce que soit on fait du foin dans la parcelle, et on ne peut pas laisser les branches gagner trop loin, un peu la concurrence du houppier, donc il y a toujours de toute façon du travail d'entretien qui serait fait. Et donc cet entretien, c'est de la coupe. Alors ça peut se faire à l'épareuse, au lamier, à la tronçonneuse, enfin, suivant les moyens techniques et puis le matériel ou l'unière à faire. Donc de toute façon, il y a un moment où il faudrait... les agriculteurs ont une nécessité de venir tailler. Donc finalement, ce temps, autant l'optimiser, ce temps de coupe, pour que ça puisse être valorisé en plus par le feuillage, quoi.
Et si on parle un peu valorisation, donc tu as parlé du broyage et de l'utilisation litière. Est-ce que ça, tu as des estimations sur un peu le volume que ça représente et le temps associé aussi?
Oui, alors, bon, on a une aire paillée, on doit avoir 200 mètres carrés, peut-être un peu plus avec les parcs des génisses. D'herbes paillées, on utilisait à peu près 200 boules de paille, à peu près, avant de mettre des copeaux. Et puis, en fait, bon, chaque année, on a testé pour mettre plus de copeaux. J'avais pas assez de... C'est plus le temps qui me manque pour broyer. Mais il nous faut, idéalement, il faudrait une centaine de mètres cubes. 100 mètres cubes pour cette surface-là, ça serait l'idéal. En gardant une cinquantaine de boules de paille. Donc, il faut se dire, on divise par deux ou trois, là, voire plus, la quantité de paille. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore à 100 mètres cubes, on fait 50 mètres cubes à l'année, mais c'est déjà très bien et c'est déjà une bonne progression. Mais voilà, donc à transposer à des stabulations pour le cas des stabulations sur air paillé, quoi.
Parce que ça te met combien de temps aujourd'hui pour faire ces 50 mètres cubes ?
50 mètres cubes, on met 3 jours à 2, enfin 3 fois 2 jours du coup. Il y a le temps, mais c'est aussi que c'est très physique. Il faut être quand même très vigilant, parce qu'il y a quand même un risque, même s'il y a une sécurité, mais il y a quand même un risque. Donc voilà, ça c'est pour 50 mètres cubes. Donc le double, c'est pas envisageable. 6 jours à 2, même si c'est réparti dans un hiver, c'est faisable, mais on pourrait passer à autre chose, mais pas tout seul, quoi.
Alors là, on a beaucoup discuté de ce qui se passe sur ta ferme, mais tu as aussi une autre corde à ton arc, c'est que tu interviens dans des formations organisées par la FAF sur les fourrages ligneux. Et je me disais que c'est justement l'occasion d'avoir un peu un retour d'expérience de toutes ces discussions que tu as et des problématiques auxquelles font face les gens qui viennent en formation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les profils que tu vois de projets, un peu nous donner des exemples de la diversité des projets que tu rencontres sur les fourrages ligneux ?
Je suis très satisfait et très content de rencontrer, d'échanger... des éleveurs qui se posent des bonnes questions ou qui ont déjà avancé aussi sur les fourrages ligneux, un peu à différents endroits de France. Personne n'est parfait, nous notre système n'est pas encore, peut être amélioré ça, mais on a quand même une expérience, on va dire une quinzaine d'années sur ce sujet, et puis aussi sur la façon de concevoir la haie en système agricole ou l'arbre en système agricole. Donc c'est des échanges très fructueux, alors qui sont très variables suivant évidemment les secteurs de France. Entre nous, dans le nord de la France, et encore, même le nord est très variable, mais et la Bretagne et l'est de la France, voilà, c'est une adaptation vraiment au terroir, aux caractéristiques locales. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est un peu général où qu'on soit, c'est la nécessité pour l'éleveur de prendre du recul et pas forcément chercher une recette miracle. Enfin, de toute façon, moi, clairement, je suis contre les recettes miracles. Elles n'existent. Enfin, on peut s'approcher de certaines recettes qui sont de certains itinéraires techniques qui sont adaptés, mais avant tout, il faut vraiment analyser ce qui est présent sur sa ferme, ce qui est déjà présent. Peut-être analyser l'ancien, analyser le potentiel, vraiment mettre en face toutes les composantes, enfin le type de sol évidemment, le contexte, si du forcément entre pâturage ovin, caprin, équin et bovin, il y a des spécificités. Mais c'est déjà regarder ce qui est présent, parce qu'en fait il y a quand même assez, c'est normal, des éleveurs qui se posent cette question d'utilisation des fourrages ligneux ou en tout cas d'améliorer l'utilisation. Mais qui n'ont pas forcément, et c'était, ça aurait pu être mon cas aussi, hein, l'idée que la ressource est peut-être déjà présente, hein, et ce qui est quand même, notamment en territoire bocager, une bonne partie de l'élevage de France, c'est vraiment d'analyser, de diagnostiquer ce qui est déjà présent, ce qui peut être peut-être déjà utilisé, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être compensé. Par exemple, on a parlé précédemment pas mal de la haie fourragère, mais peut-être qu'avant de venir à la haie fourragère, il y a peut-être des choses très simples à faire. Je vais prendre quelques exemples concrets, qui ne seront évidemment pas exhaustifs, mais les zones en déprise, enfin des parcelles en déprise, il n'y en a pas dans toutes les fermes, mais ça peut quand même assez régulièrement arriver. On est souvent arrêté à un cortège d'essences qui ne nous intéresse pas. Les genêts, les épineux, alors suivant le territoire où on est. On se dit, oh bah, les éleveurs, on se dit, oh bah, cette parcelle, elle n'est pas intéressante, il n'y a pas beaucoup d'herbes parce qu'il y a trop de genêts, il y a trop d'épines. On sait pas comment. Voilà, ça n'a pas grand intérêt. Et finalement, c'est peut-être une parcelle comme ça qui va avoir un fort intérêt, potentiel fourrager. Simplement, il faut arriver à voir ce qui se cache. C'est vraiment le cas, c'est parce que souvent, on a des pousses d'essence plus fourragères. On peut avoir, par exemple, le sorbier des oiseleurs qui va être disséminé au sein de genêts, mais l'éleveur n'y pense pas forcément. Parce qu'il ne voit pas, il ne voit que les genêts. Je ne vais pas rester vraiment autour de cet exemple-là, mais donc le travail de réflexion autour des fourragineux, ça peut être sur, là-dessus. C'est comment, essayer, comment valoriser, comment permettre le développement de ces essences-là. Qui sont au final déjà présentes, ou alors ça peut être des semis, on peut avoir des semis sous-jacents de chênes et d'érables dans un roncier, mais quand on regarde la parcelle de loin, on se dit, il n'y a que des ronces, comment on va valoriser ça? Donc là, c'est là où j'essaie autant que possible de donner des idées, de trouver des idées. C'est pas que donner des idées, c'est trouver des idées avec les éleveurs qui sont demandeurs. Pour valoriser. Alors par exemple, ça peut être faire une mise en défense sur un secteur pour favoriser une essence qui n'arrive pas, un sujet qui n'arrive pas à se développer, un groupe de sujets qui n'arrive pas à se développer. Ça peut être au contraire d'aller faire du broyage, des pressages dans des zones très denses où on va pouvoir mettre accès au troupeau, mettre accès à un bosquet de jeunes arbres qui serait intéressant. Donc voilà, c'est des exemples comme ça. Après, ça peut être aussi ce qui se fait dans du bocage, le bocage de l'ouest de la France ou de la Bourgogne qui est très productif. On n'a pas parlé beaucoup pour l'instant des charmes. On peut avoir des grands alignements de charmes, de hormes, têtards, parfois plus que centenaires. Et c'est une ressource qui de plus en plus est revue, bah, par exemple, par les éleveurs comme... potentiel pour faire du bois, soit du bois de chauffage, soit du... Enfin, ça, je dis de plus en plus, non, ça l'a toujours été, mais de plus en plus pour faire des plaquettes, par exemple. Et l'idée toute simple, une idée première pour un éleveur qui a beaucoup de haies, on a des fermes où il y a plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres parfois de ces haies très denses, bah, c'est qu'en fait, de toute façon, il y aura un objectif valorisation en bois plaquettes, mais tant qu'à faire venir... Du coup, généralement, ça se fait... un gros chantier, donc tant qu'à faire venir une entreprise qui va couper enfin, du matériel spécialisé, autant le faire à la période où ça peut aider le troupeau, parce que de toute façon c'est en prairie, il n'y a absolument pas nécessité à venir faire ça forcément au mois de décembre ou janvier, et en plus où on va abîmer les sols. Si on peut le faire à un moment où la terre est porteuse et où il reste des feuilles et où les animaux sont présents à parcelle, dans la parcelle c'est un bonus, c'est une valorisation fourragère supplémentaire. Typiquement, là, en cette fin d'année où il peut être très sèche dans certains territoires, un chantier qui aurait été prévu en décembre, pourquoi pas l'avancer là, en ce moment, en septembre. Même si le troupeau ne consommera pas tout, parce que quand l'entreprise vient, quand le matériel est là, il faut que ça avance, mais en tout cas, il y aura une valorisation qui aura été faite. Et ça, c'est pour en revenir aux questions des éleveurs, c'est un premier exemple qui est... auquel on ne pense pas forcément, avant de foncer vers la table fourragère. Et donc voilà, ça se construit comme ça, pour en revenir à l'idée du diagnostic à l'échelle de la ferme, à l'échelle du système de pâturage. Et puis, ce qu'on fait lors des journées de formation, c'est... On est toujours sur une ferme d'accueil. C'est un peu de faire un inventaire, c'est pas de l'inventaire scientifique exhaustif, mais de regarder un peu les essences qui sont présentes. Dans les haies, et allez, je vais citer l'exemple du nerprin purgatif qui est plutôt sur les terrains calcaires, qui est très commun, mais qu'en fait on ne voit pas parce qu'il est souvent emprisonné, compris dans des forêts d'aubépines. C'est un excellent fourrage ligneux, un feuillage qui est très très apprécié, mais il y a quand même très peu d'éleveurs qui le connaissent, tout simplement parce qu'il est dissimulé et finalement il est bien consommé. C'est une ressource fourragère qui est présente. Donc là, le diagnostic de terrain est vraiment intéressant pour ça. Et souvent, je pense qu'il y a une phrase qui, enfin une phrase, un début de phrase qui ressort, c'est ah ben je ne pensais pas que dans mes haies il y avait une telle diversité. On a vite fait d'avoir à l'échelle d'une ferme, c'est rare qu'il y ait moins de 30 essences d'arbres et d'arbustes. Il y en a qui sont beaucoup moins représentées que d'autres. ça c'est souvent un effet surprise et voilà, derrière il peut y avoir des idées qui germent sur ça, des valorisations supplémentaires.
Et après aussi, est-ce que tu as des conseils un petit peu en retour d'expérience sur des choix un peu simples ou des choses qui te paraissent évidentes maintenant avec l'expérience pour pouvoir te simplifier la vie en termes de confort de travail, de temps de travail, des choses qui ont pu évoluer dans ta manière de planter des arbres ou de les tailler ou quoi que ce soit?
Ouais, clairement, c'est la contention, la gestion du troupeau. Enfin, que ce soit dans la mise à disposition d'une haie existante ou dans des nouvelles plantations qui sont faites, là où j'ai vraiment beaucoup appris, un peu à mes dépens, mais maintenant, voilà. Et ce que je conseille vraiment, c'est d'attendre, de ne pas être trop pressé. Parce que moutons, chèvres, il n'y a pas trop de risques. Il y aura un risque d'abrutissement, de décollage d'écorce et compagnie, mais il n'y aura pas trop de risques au niveau du système racinaire. Par contre, tout ce qui est chevaux et vaches, on a un gros risque à faire venir des animaux trop rapidement au pied d'arbres qui ont été plantés, qui ne sont pas encore bien enracinés. Donc, ouais, voilà, le conseil, c'est de ne pas trop se presser et d'attendre de bons moments, ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce qu'il faut bien observer. Mais voilà, donc même sur la mise à disposition d'une haie, on se dit, oh, bah, cette haie-là, tiens, je vais peut-être enlever la clôture qui traverse la haie, parce que... comme ça me permet que les animaux circulent d'une parcelle à l'autre et puis ils vont manger tout ce qu'il y a dans la haie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait ça devient une haie traversante, circulante, les animaux pénètrent la haie de part et d'autre, vont consommer dedans, et on peut complètement anéantir cette haie-là. Voire, ou avant d'être anéanti, c'est qu'il va rester plus que des épineux, des essences un peu dures à cuire et puis qui rebutantes pour les animaux. Donc parfois il faut mieux se dire, bah, je garde une... Je sais pas s'il y avait des fils barbelés qui traversaient une... ou un ursus, bah, faut mieux le garder, même si c'est... parce que ça va permettre de pérenniser la durabilité, enfin, d'avoir une plus grande durabilité sur cette haie-là, quoi. Et c'est sur son aspect fourrager.
Et en revenant un peu plutôt à tes échanges avec tous ces agriculteurs, c'est quoi les points de blocage récurrents qui reviennent dans la mise en place des projets?
Oui, bah, clairement. Alors, avant que ça soit un point de blocage réellement, mais c'est la première réaction, c'est le temps. On ne va pas forcément parler de l'affouragement parce que toutes les fermes n'ont pas forcément besoin de faire de la rame au sol. Hein. Il y a des, je vais dire dans l'ouest de la France, mais ce n'est pas généralisé, parce qu'il peut y avoir des périodes très sèches, mais dans des bocages avec des terres très poussantes, c'est pas forcément, ça ne sera pas forcément nécessaire, ça peut être du pâturage direct. Donc là, il n'y a pas un temps, une perte de temps à venir couper des branches. Puis il y a sur des troupeaux importants, en fait, c'est ça qui va être, c'est vraiment l'adaptation à la taille du troupeau. Il y a des solutions qui... existe, mais je pense qu'il y a des solutions à trouver pour la mécanisation. Typiquement, du matériel de coupe, d'élagage plus approprié que le lamier, parce que le lamier, ou les pareuses encore moins, mais le lamier, ça va faire des coupes un peu loin de la zone où on souhaite qu'il y ait beaucoup de rejets. C'est pour répondre vraiment à cette problématique temps à passer à une période où on n'a pas forcément le temps, en août-septembre, où l'éleveur a beaucoup de choses à faire. Donc c'est... Je pense qu'on peut beaucoup progresser. Enfin, je dis on, les personnes intéressées, et j'espère qu'elles seront suivies par les partenaires, par des entreprises qui trouvent des constructeurs qui trouvent du matériel adapté. Je pense et j'espère qu'il y aura de la progression sur ce sujet-là.
Eh bien, Adrien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager toutes ces choses avec nous. C'était vraiment passionnant. Et on essaiera de mettre un maximum de ressources aussi dans la description, avec un peu des photos de la ferme et aussi le lien vers tes futures formations que tu fais en partenariat avec la FAF.
Très bien, bah merci et puis bonne continuation.
Cet épisode de Cambium est déjà terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforesterie.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!